minutes. À 10h32 minutes, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitch. On a une belle communauté sur Twitch qui nous jase au fur et à mesure de l'émission. Puis en plus, il entend le petit mémérage qu'on fait pendant la pause.
C'est le meilleur.
C'est le meilleur.
Ouais, c'est le meilleur.
C'est le meilleur. Donc, les fans de Boulevard. En fait, c'est BLVD barre en bas FM, ça.
Oui, twitch.tv, BLVD barre en dessous FM pour ce qui est de la communauté Twitch. Voilà. Le 971-1021 texto et 780-1021 pour le téléphone. Tu parlais de la route. Il y a quelques ralentissements si vous êtes sur Guillaume Couture dans les deux directions à l'approche des ponts. La 20 direction ouest aussi, à la sortie des ponts. Il y a quand même un bon ralentissement là, à prévoir si vous êtes dans le coin. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, 971-1021 texto.
Merci, monsieur, madame. Merci, monsieur, madame. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Danny Morissette, qui est un ancien policier de la Sûreté du Québec. Il était au crime majeur. Il est tout en beauté. Je ne sais pas s'il s'est habillé chemise cravate avec son complet pour moi.
Ben moi, j'aime imaginer que c'est pour moi parce qu'on se retrouve.
Oui, c'est ça. Après un mois, quoi.
Presque. Presque un bon mois. 3 semaines faciles, en tout cas. Ouais.
Salut, Danny Morissette.
Hey, salut à vous deux. Bon retour de vacances, Audrey.
Ben, merci. Contente de te retrouver.
On
ben,
est content de t'avoir avec nous autres. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est assez délicat parce qu'il y a des gens qui peuvent être heurtés par ce sujet-là. Les femmes dans la police.
Oui, oui. Avant ça, il y a une odeur ici.
Oh,
je sais pas. Oui, je sens la même chose que toi, je pense.
Ouais.
Je sais pas, on dirait un déodorant, je suis pas certain.
Ouais, oui. Un peu fort d'adolescent.
J'ai mis le déo à mon gars, c'est du Axe. J'avais jamais mis ça de ma vie. Puis là, ben, j'ai l'impression de sentir la guedaille.
OK, c'est toi, Yann.
Oui, c'est ça.
C'est ça l'odeur que tu sens.
Fait que c'est pas Audrey. D'habitude, c'est elle. Mais là, c'est plus moi qui sens la guedaille.
Tu sens le swing d'habitude.
Oui, c'est ça.
Oui, blague à part. Effectivement, j'ai pensé beaucoup. Je me suis dit, on se lance-tu là-dedans?
Oui.
Parce que j'ai plein d'amis, puis beaucoup de citoyens, beaucoup d'auditeurs qui se posent des questions. Pour ou contre les femmes dans la police, est-ce que les...
Encore en 2024, il y a des gens qui se posent cette question-là, Danny.
Écoute, la majorité des questions que je reçois, c'est toujours, bon, pourquoi la femme 4 pieds 10, on la voit pas, son équipement est plus lourd qu'elle, si jamais elle veut m'arrêter, elle sera jamais en mesure de le faire parce qu'elle a pas la force physique d'un homme. Encore en 2024, les citoyens se posent ces questions-là. Puis je vous dirais également, dans le milieu... Encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'avant.
Ouais.
Il y en a des policiers qui se posent cette question-là.
Mais on l'a tous entendu, tu sais, lors d'interventions, quand c'est des interventions un peu plus musclées, quand tu es un partenaire, puis avec une partenaire, vous êtes une équipe, si jamais il y a deux personnes que tu dois arrêter qui résistent à leur arrestation, ben le gars va nécessairement penser à protéger sa partner. Et si sa partner est de 4 et 7, comme tu dis, avec son équipement, son pare-balles, son gun et tout ça, ça peut être un stress supplémentaire pour les gars. Mais maintenant, avec les armes que vous avez, là, tu sais, les armes que vous portez en 2024, une femme de 4 et 7 est capable de faire la job autant qu'un homme de 260 livres.
Là. Absolument. Les femmes ont les mêmes tests physiques que les hommes en technique policière, à quelques différences près. Puis... aujourd'hui, le contexte actuel en 2024 est différent de celui des années 90, où est-ce que j'ai commencé. Parce que, comme je vous disais lors d'une émission précédente, moi, dans ma carrière, je n'ai pas eu souvent à me disputer, à me battre avec un individu. Puis encore aujourd'hui, en 2024, on discute, on se bat pas. On se fait, entre parenthèses, moins essayer. Je me souviens, en Abitibi, c'est tous des hommes forts, des gars qui travaillent dans des mines, des bûcherons. Souvent, le gars, il me disait, regarde, c'est pas à soir que tu vas m'amener. Puis, il fallait chamoyer avec pour l'amener. Il nous essayait. Puis, une fois que c'était fini, mais regarde, c'est beau, je vais te suivre. Aujourd'hui, on n'est plus là.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est là aussi que la femme est un atout au niveau, tu sais, empathie, au niveau discussion, au niveau, puis peut-être que je me trompe, mais ce qu'on entend beaucoup, c'est que le métier de policier a énormément évolué, puis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de santé mentale dans le domaine, le métier de policier. J'ai l'impression que la femme peut être un solide atout à ce niveau-là aussi. Là.
Bien, moi, si on me pose la question, si la femme a sa place dans la police, la réponse est claire, c'est oui. Puis même que, comme tu mentionnes, l'empathie, l'écoute, la communication, je veux pas généraliser, mais souvent les femmes sont meilleures que les hommes à ce niveau-là.
Au niveau de la communication.
Oui, je suis allé au CNDF visiter mardi le Collège Notre-Dame-de-Foy. Ils ont une section technique policière. Et puis, on parle de ça. C'est super bien organisé. Je vais faire un peu de publicité pour le CNDF, mais c'est complètement divisé en... Tout est divisé. Il y a des salons virtuels, un dépanneur virtuel, les policiers, aspirants policiers, patrouillent en véhicule. Et puis, j'ai même assisté à une mise en situation où est-ce que tu avais un dossier de violence conjugale. Et puis, la femme avait mal au dos, l'homme était nerveux. Bon, tranquillement, pas vite, les deux policiers amenaient tranquillement, essayaient d'avoir des motifs pour arrêter l'individu. Et j'enlève rien aux policiers. Ils commencent, là, mais c'était deux jeunes hommes. Et puis là, à ce moment-là, je me disais, mon Dieu, si ça avait été une femme, c'est certain que l'actrice là-dedans aurait été prise en charge plus rapidement. Mm. Les policiers n'écoutaient pas la femme. Ils étaient focussés vraiment sur le suspect. Ils cherchaient à avoir des motifs pour l'arrêter, mais la femme, ça faisait au moins 5 fois qu'elle disait qu'elle avait mal au dos. Et les policiers n'ont même pas pensé à lui dire « Veux-tu t'asseoir en attendant? » Puis j'ouvre, je referme une parenthèse. Ce qui m'avait impressionné, c'est que là-bas, tu as également section pompier, section ambulance. Mais c'est tellement réaliste, cette mise en situation-là, qu'il y a une vraie ambulance qui est arrivée pour prendre charge.
Mais
oui, bien, c'est des étudiants.
Ouais.
Mais quand même, je me suis dit, mon Dieu, c'est comme dans la vraie vie.
C'est toujours des simulations. T'sais, moi, je comprends ton opinion par rapport aux femmes dans la police, puis je la respecte. Je pense qu'Audrey pourra donner son opinion par la suite. Moi, je suis plus dans... Oui, les femmes dans la police, oui, les Noirs dans la police, oui, les Chinois dans la police, mais ce que je veux, en bout de ligne, c'est le meilleur candidat possible, indépendamment du sexe, indépendamment de la couleur. Puis j'ai l'impression que dans divers corps, que ce soit les corps de police, c'est qu'il y a des exigences. Ah, vous devez embaucher tant ou tant de personnes. À ce moment-là, moi, ça devient plus comme je pense, tu sais. C'est moi, je veux le meilleur candidat ou la meilleure candidate possible. Je veux pas qu'on dise « Ah, il manque de cette catégorie de personnes-là. » Fait qu'il faut l'amener dans la police. Ça fait en sorte qu'on n'a pas les meilleurs policiers puis les meilleures policières qu'on pourrait avoir.
Puis t'as raison. Puis une des questions qu'on se pose comme policier en 2024, c'est à force égale dans une entrevue pour une promotion. Les deux candidats l'ont réussi. Ils ont la même note. Est-ce qu'ils vont choisir la femme? Parce qu'actuellement... Puis c'est Dany Morissette qui parle, c'est pas l'organisation.
Ouais. La femme ou quelqu'un de la communauté LGBTQ+2 ou quelqu'un d'une autre culture ou d'une autre couleur.
Voilà. Voilà. Mais pourquoi on prendrait pas un blanc? Je sais où c'est que tu veux m'amener tranquillement. Pourquoi on va choisir à la place une minorité ethnique, personne issue d'une communauté autochtone, une femme LGBTQ, etc., à la place d'un homme blanc? Bien, c'est que tranquillement, un peu comme dans toutes les sphères d'activité, tous les métiers, nous, on a une directrice générale. C'est notre première directrice générale, Mme Joanne Beausoleil, qui est à la SQ. Et elle promouvoit beaucoup, beaucoup la carrière des femmes dans la police. Donc, c'est certain que ce point-là que tu amènes, ça faisait partie d'ailleurs de ce que je voulais parler, ça amène une frustration au niveau de certains policiers.
Ben, oui, puis ça amène des préjugés qui ne devraient pas y avoir. Je parlais avec une pompière, je ne sais pas si tu étais avec moi, mais la dame a commencé au service des incendies, puis maintenant rendue officier. Puis sa plus grande fierté, c'est qu'elle a réussi à grimper dans la hiérarchie, non pas parce qu'elle était une femme, c'est parce qu'elle était la plus compétente. Mm. Puis ça, c'était sa fierté. Qu'elle n'ait pas été choisie par rapport à d'autres candidats, par rapport à son sexe, par rapport à sa couleur ou par rapport à sa religion. Puis ça, je pense que quand on donne la chance à ces gens-là de monter en hiérarchie, parce qu'ils sont les meilleurs, c'est les meilleurs modèles pour les petites filles ou c'est les meilleurs modèles pour la communauté LGBTQ+2 ou pour les blancs-becs, tu sais.
Exact.
Ça devient les meilleurs modèles possibles parce que si tu prends des gens que tu dis, OK, ben ils sont peut-être un peu moins bons, l'école, il y avait un peu plus de difficultés. Pour ce qui est du maniement d'armes, il y avait un petit peu plus de difficultés, puis tu les mets là, puis ils font des erreurs majeures, bien là, ça ne sera plus un modèle pour leur communauté, entre guillemets. Là.
Non, puis il faut les choisir pour les bonnes raisons aussi. Pas seulement pour dire, regarde, il nous manque de femmes gestionnaires dans la police, donc on va la nommer elle plutôt que nommer un autre qui serait bien meilleur, mais qui, à quelque part, on parle de discrimination positive, bien,
ouais.
Ça va aussi à l'inverse. Mmh. Aujourd'hui, on est rendu là, c'est un homme qui est blanc. Écoute, il y a moins de chances quasiment d'avoir des promotions.
Ouais, parce qu'on veut une meilleure représentativité des autres communautés. Quand on parle du campus Notre-Dame de Foy, bon, c'est là où on forme nos policiers.
Oui.
C'est un 2 ans intensif qu'on fait à ce campus-là?
Ce qu'on m'a expliqué là-bas, c'est qu'il y a encore, comme au Cégep Garneau, la technique policière de 3 ans, mais ils ont également un programme accéléré pour ceux qui ont fait des études au Cégep dans un autre domaine ou de l'université.
Des bacs, oui.
Des bacs. Donc, eux, c'est un programme accéléré de 2 ans. Puis moi, ce qui m'a surpris aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas ça dans notre temps, c'est que les gens, ils se font déjà embaucher ou à tout le moins, ils passent des entrevues dans des corps policiers. Je parlais avec un jeune, là.
Ouais.
Il a passé son entrevue, c'est mardi, lundi. Lundi au SPVM. Puis il a réussi son entrevue, puis il est rendu à sa 3e année de technique policière. Il n'a même pas fait Nicolette.
Puis il est embauché.
Il y a une promesse d'embauche, wow. Mais conditionnelle à la réussite de l'École nationale de police de Nicolette. Mais s'il ne réussit pas, qu'est-ce qui arrive, tu sais? Donc, les corps policiers, maintenant, ils recrutent directement dans les cégeps. Ça, c'est une nouveauté. C'est quelque chose que je ne le savais pas. Puis,
mais je trouve ça intéressant. Il y avait-tu aussi, pour la Sûreté du Québec, je ne sais pas si ça existait encore, mais j'avais une femme qui travaillait avec moi. Elle était dans la gestion, dans restauration et tout ça. Puis à un moment donné, elle a rencontré un chum policier qui était dans la Sûreté du Québec. Bon, elles se sont fréquentées. Puis après ça, elle a dit « Hey, je m'en vais dans la police ». Puis il y avait comme un cours accéléré, hyper rapide pour les civils qui avaient des bacs, là. Puis elle est passée par là, puis aujourd'hui, c'est une policière, la Sûreté du Québec.
C'est le programme des conventionnels.
Conventionnels.
Oui, des conventionnels. Ça existe encore aujourd'hui. Une fois par année, il y a une ouverture de concours. C'est un programme qui est très accéléré. Je pense qu'au lieu de faire 2 ans de technique policière, ils vont seulement se concentrer sur les cours pratiques,
okay.
Intervention en situation de crise, les cours de droit. Et ils vont aller passer leurs 15 semaines à Nicolette par la suite. Donc, ils vont...
C'est une bonne affaire?
Ben oui, c'est une bonne affaire.
Ben, moi, je me souviens d'Annie Pinault, qui était une psychologue,
ouais.
Qui, elle, à l'époque, début des années 2000, avait fait ce programme-là. Elle est rentrée et puis elle a fait 3 mois de police,
ouais.
Sa patrouille, puis elle s'est en allée directement au crime contre la personne. Pourquoi? Parce qu'elle avait un bac en psychologie.
C'est ça.
Même chose pour les comptables. Les comptables, très rapidement... est aligné vers les crimes financiers.
Crimes économiques, oui.
Les crimes économiques.
Puis ils ont des têtes de comptables en passant, là, pour les avoir croisés. Là. Je me suis dit, ouais, on s'en a l'air de des comptables, puis ils avaient leur gun, puis ils avaient leur écusson de police. Je trouvais ça sympathique de les rencontrer. Les gars sont le fun en maudit, même si c'est des comptables.
Oh, oui, mais...
Un comptable, le fun, c'est rare. Tu sais comment tu fais pour reconnaître un comptable dans une foule, Audrey?
Vas-y donc.
Tu sais pas?
Non, vas-y donc.
Ils viennent te le dire.
Oh mon Dieu, c'est bon. T'as raison. T'as pas tort.
On les salue.
On parle de cover story. Je sais que t'aimes bien le domaine des agents doubles.
Oui.
Souvent, nos cover stories, c'est ça. On est comptable. Je veux dire, c'est quoi tu veux poser comme question à un comptable? Tu fais-tu des rapports d'impôts, tout ça? T'as pas de questions à poser.
C'est plate.
Hein?
C'est vrai que c'est
poche. Excusez-moi pour les comptables. Donc,
on a besoin d'eux autres, mais c'est plate pareil.
Mais à ce moment-là, tu viens d'éliminer un paquet de questions pièges que si tu disais, ben écoute, moi, je travaille à Hydro-Québec, je suis monteur de ligne, ouais, là, ça se peut que ça soit plus spécialisé.
Exact.
Là, en étant comptable, bon, OK, j'ai eu comptable.
Il manque-tu de policiers en ce moment au Québec?
Énormément.
Oh, ouais.
C'est drôle parce qu'aux nouvelles, ils ont parlé de ça, là. La Sûreté du Québec cette année, là, je pense qu'ils ont le record du temps supplémentaire. Depuis l'existence de la Sûreté du Québec, on parle de millions de dollars. Et puis, tous les postes de police, les escouades sont toutes sur le fer.
Mais c'est-tu là, c'est une drôle de question, mais c'est-tu les étudiants qui manquent ou c'est mal fait dans les villes? Parce que ce que j'entendais de proche, c'est que, ah ben non, mais au SPVQ, le corps policier est plein. À telle place où j'aimerais aller, c'est plein. C'est super contingenté, c'est super difficile. Fait que les jeunes vont se rediriger, mettons, en région ou vont aller du côté de Montréal parce qu'il y a des besoins. Mais c'est comme si les élèves sont disponibles, sauf que sur le marché, on dirait qu'il n'y a pas de poste ouvert. Il y a comme une ironie un peu, là.
Bien, la problématique qu'on a depuis plusieurs années, dans les cégeps, il n'y a pas de problème. C'est encore contingenté. Puis, il y a en masse d'étudiants qui appliquent pour devenir policier. Nicolette, à l'École nationale de police, ils ont le pouvoir d'engager, je pense, 660 policiers par année. Ça donne 11 cohortes de 60. Fait que si mes maths sont bons, ça donne 660. Et c'est tout. Ils ne peuvent pas en faire plus.
Okay.
Ils n'ont pas le potentiel, les ressources humaines, etc., nécessaires. Et puis, actuellement, ils sont en train de faire un nouveau bâtiment sur l'île de Montréal pour pouvoir combler la demande. Parce que hier, quand on a parlé du sujet des femmes, j'ai quand même fait mes devoirs, j'ai fait quelques petites recherches. Ça va prendre 30 secondes. C'est des statistiques qui vont vous démontrer l'évolution un peu des femmes dans la police. Aujourd'hui, on est 15 000 policiers environ au travers de la province. Là-dessus, 36 % sont à la Sûreté du Québec, 35 % Sûreté municipale, incluant les corps de police autochtones, et 29 au SPVM. Ça donne environ un ratio de 157 policiers par 100 000 habitants. Et puis, actuellement, puis ça, c'est un chiffre qui m'a fait sursauter, j'ai même fait des appels par la suite, il y a 75 % des policiers au Québec qui ont 10 ans d'ancienneté et moins.
Donc, nos policiers sont jeunes.
Nos policiers sont jeunes. Et à Québec, je parlais avec Christian qui enseigne au CNDF, qui est policier à Québec, c'est 80 % des policiers qui ont 5 ans et moins au SPVQ.
T'as-tu un ratio? Dans le temps, il y avait combien d'hommes et de femmes dans la police versus aujourd'hui? À quoi ça peut ressembler?
Oui. Avant, quand je suis rentré dans les années 90, c'était une femme sur 10. Et là, je fais attention à ce que je dis. La femme, souvent, elle était homosexuelle. C'était un homme, carrément un homme, tu sais. Ou encore, c'était une très jolie femme.
C'était fait pour un métier d'homme.
Ou une très jolie femme. Et là, à ce moment-là, je vous cacherai pas.
C'était plus dur pour eux autres.
Oui, mais c'était plus dur pour les autres policiers puis pour les conjointes des policiers. Parce que ça créait de la jalousie.
Hey boy!
Tu passes 40 heures par semaine avec ta partenaire, qui est un top modèle.
T'es plus souvent avec ta partenaire de travail, avec elle, qu'avec ta propre conjointe à la maison.
Ben oui.
Il y a des filles qui trippaient pas nécessairement.
Il y a des polices retraitées de plusieurs années qui pourraient le dire. Ça a causé des divorces.
Ouais.
Et puis, il y avait plusieurs conjointes de femmes policiers qui disaient « Non, 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 tu ne travailles pas avec cette femme-là. Je ne la truste pas. Je n'ai pas confiance. » Parce que quand tu passes 40 heures dans un véhicule de patrouille, on fait le même métier. Donc, tu te confies.
Mais oui.
Il y a des confidences. Tu partages des secrets.
Des rapprochements.
Puis à la limite, tu dis des choses à cette femme-là que tu ne dis pas à ta femme non plus.
Oui, puis vous vivez des affaires conjointement. Que les autres savent pas que vous vivez. Là, quand vous arrivez sur des scènes de crime, vous débriefez l'un et l'autre pour vérifier si c'est correct. Tu te sens écouté par la personne qui est avec toi. Donc, des années 90, tu me dis le ratio est à peu près une femme sur 10. Aujourd'hui, ça peut ressembler à quoi?
C'est une femme sur 3 aujourd'hui. C'est à peu près 33%.
Quand même.
Et puis, je vais même pousser ça encore plus loin. À Nicolette, c'est ça. C'est une femme sur 3 qui se rend à l'École nationale de police. Et dans les cégeps, actuellement, c'est 50-50. On a l'équité.
Je trouve ça hot, ça.
Ouais.
Je trouve ça vraiment hot, pour vrai, que les femmes aient envie de faire ce métier-là aussi.
Ouais.
Quand t'es rentré dans les années 90, ma tante police, étais-tu là, ma tante?
T'as connu ma tante? Écoute, c'est une légende, ma tante, mais elle a vraiment existé. Elle est encore en vie, Madame Diane.
Madame Juteau.
Madame Juteau.
Ouais.
Madame Juteau, elle, c'est elle qui a ouvert la porte aux femmes dans la police. Elle est rentrée en 1975 comme policière à l'âge de 19 ans.
Elle, c'est une pionnière. Là.
Oui, c'est le mot que je cherchais.
Ouais.
Elle l'a pas eu facile. Elle a travaillé 6 ans au poste de Shawinigan. Puis c'est drôle parce que j'ai assisté à une de ses conférences quand je suis rentrée policier. Elle est géniale, cette femme-là. Tout le monde l'adore.
Mais elle est encore super intéressante à entendre. On l'entend des fois dans des entrevues. Là, puis...
Moi, je l'adore. Et cette femme-là, c'est drôle. Pendant 6 ans de temps, il n'y a pas un policier qui voulait travailler avec elle. Et le seul policier qui voulait travailler avec, c'était conditionnel à ce qu'elle ne conduise pas. Parce qu'elle n'était pas assez grande. Elle était tout petite. Puis lui, il n'aimait pas ça.
Ça, c'est dans le temps que vous aviez 12, là, qui était directement dans Ouldash, là.
Ouais. Ça, j'ouvre en faire la parenthèse. Sais-tu pourquoi on a enlevé 12 dans un véhicule de patrouille? On va être généreux avec les auditeurs.
Pourquoi? Ben moi, je pensais que c'était pour c'était plus pour l'esthétique. C'est-à-dire qu'on va mettre ça dans le coffre puis on se le fera pas voler. Là.
Non. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu le rentres, tu le racks, tu le crinques. Puis c'est arrivé souvent que nos véhicules se transformaient en décapotables puis en trou ouvert.
Arrête. Ah, oh, c'est bon, ça. C'est drôle.
C'est une anecdote, mais c'est vrai.
Oh, c'est
les
bon.
Gens oubliaient de le décharger. Puis à un moment donné, le coup partait, puis le toit, ben c'est plate, il n'y en avait plus.
Quand il rentrait dans le rack, il crinquait.
Il rentrait avec la pompe. Fait que ça le crinquait, puis le coup partait.
T'expliques ça comment, ton boss, après?
C'est dur à expliquer. Tu peux pas dire que tu as fait un accident parce que là, c'est le toit qui est amoché. Mais ça fait partie des
Ça veut dire que le dos qui était là, il était positionné là pour que ça aille vite, là, que vous n'ayez pas à le chercher dans le coffre. Parce qu'aujourd'hui, quand les policiers ont des fusils d'assaut dans leur véhicule, quand ils arrivent sur des opérations spéciales, c'est carrément dans le coffre.
Oui, il fallait qu'on l'aille proche. Les dos, c'était surtout utile dans des régions isolées, éloignées. Comme moi, à Grande-Vallée, souvent, il y avait des orignaux. Donc, on devait abattre l'orignal pour mettre fin à ses souffrances. Ou encore dans des opérations, on appelle ça des opérations sang, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est recherché, qui est possiblement armé. Donc, encore aujourd'hui, on voit ça, des policiers qui barrent le chemin, qui ont des armes d'assaut dans les mains, qui sont prêts à intervenir. Là, à ce moment-là, bien, ça fait plus répressif qu'un Glock, un petit pistolet.
Quand tu as commencé dans la police, tu as commencé dans les années 90, tu m'as dit, est-ce que vous aviez le droit d'amener votre arme à la maison? Parce que les policiers américains, ça dépend des États. Là. Certains sont 24 heures sur 24 avec leur arme, puis d'autres, l'arme est directement à la station de police.
C'est du cas par cas. Moi, j'ai toujours amené mon arme à la maison.
Ouais.
Parce que j'étais aux enquêtes, puis à un moment donné, quand le téléphone sonne, puis
faut
je dors. Ouais, c'est ça, faut que je parte. Puis souvent, ben ça m'évitait d'arrêter au poste de police, aller chercher mon arme, après ça, me rendre sur les lieux. Je demeure dans le comté de Portneuf. Donc, quand que le dossier était sur la rive nord de Québec, ben pour moi, c'était plus facile, tu sais, d'aller directement sur les lieux que d'arrêter, puis d'aller chercher mon arme, de me griller, puis tout.
T'es-tu obligé d'être en uniforme pour avoir ton arme sur toi? Tu sais, je sais pas, mettons, tu peux pas traîner ça dans le char, j'imagine.
Non, ben moi, je le traînais toujours sur moi. Je le laissais jamais dans mon véhicule. Puis à la maison, il est toujours barré à double tour.
Ouais, c'est un peu la même affaire que pour ce qui est des chasseurs, en fait.
Ouais. Ouais, à la maison. C'est la même loi pour tout le monde.
Que ce soit sécurisé.
Je conviens à Nicole Juteau. Donc, il y a un partner qui a voulu travailler avec elle seulement si elle conduisait pas. Puis,
ouais, c'est le seul qui voulait travailler avec.
C'est quand même assez populaire. Puis elle a fait sa carrière pendant combien de temps?
De 1975 à 2001. Elle a terminé au renseignement criminel. Puis c'est drôle parce que le renseignement criminel a travaillé avec les motards. Les motards, c'est pour ça, je te trouve bon, Yann. Il l'appelait la matante. Tu sais, il aime bien nous donner un nom. Vous m'appelez le schtroumpf à lunettes. C'est pas nécessairement des noms sympathiques, là. Mais avec eux autres, tu sais, au moins, ils s'en reconnaissaient.
Ben, il aurait pu dire le comptable. Là.
Ben oui, le comptable, le schtroumpf. Mais tu sais, quand il disait hey, « c'est le schtroumpf », ben il savait de qui il parlait.
Fait qu'il n'y avait pas de raison particulière pour ma tante. C'est juste que c'était une femme, puis elle était petite, puis j'imagine qu'elle dégageait ça. Pis...
C'est ça.
Ah oui, hein.
Puis Diane, ben, c'est la première agente double à la Sûreté du Québec. Elle a fait ça pendant de nombreuses années.
Ah ouais.
Ouais, ceux qui ont écouté Dexter, vous vous rappelez sûrement la sœur Dexter, quand elle débute dans les premières émissions, elle travaille à la moralité, elle est déguisée en prostituée. Ben Diane, elle a fait ça longtemps.
Nicole?
Nicole, excusez, j'ai dit Diane, mais c'est Nicole.
Ah oh, oui, hein? Mon Dieu, que c'est intéressant.
Ouais. Puis encore aujourd'hui, grâce à Diane... Ça, même les policiers ne savent pas. Je l'ai su hier en faisant des recherches. On a la Journée internationale des femmes dans la police, qui est le 22 septembre de chaque année. Donc, on a évolué comme société à ce niveau-là. Puis, personnellement, oui, il y a des désavantages aussi à être une femme policière.
Ouais.
Mais comme il y a des désavantages à être un homme policier, à mon sens, tu sais, dans le sens que si on prend le policier pour ce que c'était, mettons, là, je vais prendre une mentalité de base, là, fait que le grand homme fort, imposant, je comprends, mais je veux dire, il y en a là, des très petits policiers là, qui sont tout maigrichons.
Oui,
là,
ça, c'est eux qui donnent des tickets et te laissent pas de change.
Non, franchement, Yannick Marceau. Non, mais tu sais, dans le sens qu'il y en a.
Ils se revengent de leur secondaire.
Il y en a toutes les morphologies aujourd'hui, là, tu sais, sans blague. Fait que peut-être qu'il y a un moment où la femme, oui, c'était peut-être, on se demandait, mais aujourd'hui, tu as des femmes qui sont bien plus baraquées que certains hommes dans la police aussi, tu sais. Je comprends qu'il y a une force de base, là, ça, je l'entends puis je le comprends. Puis d'un autre sens, je veux dire, au niveau de l'empathie, bien, je trouve que c'est une force que peut-être que les hommes policiers ont moins,
ouais.
Justement. Je trouve que ça se balance.
Oui, dans les interventions policières, c'est ce qu'on m'a raconté, puis arrête-moi si je me trompe, mais exemple des dossiers de violence conjugale. Bien, l'homme va s'occuper de l'homme, la femme va s'occuper,
voilà.
Va s'occuper de la femme. C'est très bien. Souvent, un gars va être plus porté, un contrevenant, va être plus porté à être doux avec la policière plutôt que le policier qui est très confrontant. Surtout si on parle d'un policier avec une forte stature et tout ça. Le gars va être un peu plus doux avec la policière. policière, puis ça va être une opération qui va être somme toute bien ordinaire, plutôt que si le gars avait usé de la force ou encore de crier après le contrevenant en disant « là, ce que tu viens de faire là, ça n'a pas de crise de bon sens, puis tourne-toi de bord, puis là, il lit les droits ». Avec la femme, souvent, c'est ce que je me suis fait raconter, du moins, je n'étais jamais là, mais souvent, les gars sont portés à être un peu plus doux. J'ai la chance de connaître trois femmes, moi, policières, dont Catherine, que je vous ai parlé, celle qui s'est fait tirer en Beauce, une femme exceptionnelle, puis je connais ses pères aussi, puis il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il n'adorait pas travailler avec Catherine.
Ah oui.
C'était la partenaire idéale, une femme extrêmement humaine, quelqu'un qui s'entraîne constamment. Là. Pour tous ceux qui connaissent Catherine, elle s'entraînait tout le temps.
Puis souvent, elle s'entraîne plus que les hommes. Elle continue de s'entraîner pour garder cette forme physique-là. Puis tu n'as pas l'image de la policière qui va chercher un beigne, mettons, contrairement à cette image-là qu'on a eue des policiers un bout.
Bon!
Hey, c'est un stéréotype qui est
On est rendu là en 2024. C'est que les femmes ont pris leur place, puis avec raison. Hey, j'ai le goût de rentrer un peu dans le piquant, Dan. Okay. On va te mettre un peu dans le trouble. Tu connais-tu des couples policiers? Hommes-femmes?
Femmes-femmes? Absolument. Hommes, j'en connais pas, mais femmes-femmes, j'en connais plusieurs. Puis hommes-femmes, j'en connais plusieurs aussi.
Quand ils chicanent, ça doit être l'enfer. Les deux se lisent leurs droits.
Franchement.
Les deux se lisent leurs droits.
Ben, je te dirais que partout où je suis passé, c'est pas nouveau. Évidemment, avec la proximité puis le travail, il se crée des couples. Puis, c'est plus problématique, je vous dirais, dans des petits postes où c'est qu'on est 10, 15 policiers, parce qu'on va se le dire, là, la police, on n'est pas différent des autres, on est ma mère. Puis, ça fait jaser beaucoup, ça crée de la jalousie. Mais tant qu'ils restent ensemble, ça va bien. Mais s'il y a une séparation, bonne chance pour le gestionnaire. Surtout, ça se termine mal. Parce que là, bon, est-ce qu'on les fait encore travailler ensemble? Est-ce qu'on les transfère de poste? Est-ce qu'ils vont avoir une faveur étant donné qu'ils sont séparés puis ils vont aller dans un poste que tout le monde désire avoir, mettons Québec Métro, parce qu'ils sont séparés puis ça ne marche plus? Ça va créer des frictions.
Mais y a-t-il des avantages de base? Moi, il y en a un couple policier dans ma famille. Puis j'ai eu des oui-dire que des fois, il y avait, mettons, des avantages quand tu voulais déménager à un certain endroit. Bien, il y a des postes qui pouvaient se débloquer pour les deux en même temps.
Mais sont-ils pour la SQ ou pour le municipal?
SQ.
Ah, c'est plus facile pour la SQ.
Il y a de la conciliation qui se fait énormément afin de pouvoir garder nos couples policiers ensemble. Mais tu sais, un des problèmes qu'on a dans les couples policiers comme gestionnaire, c'est au niveau des choix des vacances. Tu sais, le monde, ils pensent pas, là, mais là, eux autres veulent avoir leurs vacances
ensemble.
Même temps.
Ben oui.
Puis nous, à la Sûreté, à tout le moins, ça marche par matricule. Donc, à partir du moment que tu leur donnes des vacances en même temps, ben là, tu crées du favoritisme. Et là, tu crées de la jalousie, tu crées du mécontentement. Ça joue sur l'ambiance, l'atmosphère au travail.
Vous êtes de même, mais est-ce comme dans un salon de coiffeuse?
Nous autres, pire. Comme n'importe qui.
Il y a de la jalousie, ça se bitch.
Ben, là.
Mais oui, la femme, elle a sa place dans la police. Puis oui, j'ai connu des femmes qui sont ultra entraînées. Puis une des choses que j'ai remarquées, encore là, c'est juste moi qui parle, c'est que la femme, elle a une pression additionnelle, puis tu l'as abordé un peu, Audrey, que les hommes n'ont pas. Elle veut... Puis c'est pas toutes les femmes non plus, mais j'en ai connu quelques-unes qui veulent se prouver.
Mais oui.
Qui veulent en faire plus qu'on en demande pour démontrer qu'elle est aussi bonne, sinon meilleure qu'un homme.
J'imagine que c'est comme un peu les petits nouveaux là, services de police de la Ville de Québec qui commencent à rentrer, veulent se prouver, veulent montrer qu'ils sont capables. Des fois, tu sais, moi, pour jaser avec des policiers parfois, ben pour me faire intercepter, je me suis fait intercepter là, 2-3 semaines. Mais le gars, je voyais que c'était un gars d'expérience, de 35 ans. Il m'expliquait pourquoi il m'interceptait. Il a vérifié mes papiers, tout était beau. Il m'a même demandé, tu joues dans combien de temps ta game de hockey? Je dis, ben, t'as le temps en masse, ça, c'est 15 minutes. Il dit, OK, c'est beau. Il est allé dans son véhicule, il a vérifié, puis après ça, il m'a laissé repartir. Mais quand c'est des jeunes, des fois, ça peut être ça peut être confrontant.
Mm-hmm.
Tu sais, parce qu'eux autres, ils sortent avec les techniques qu'ils ont apprises à l'école. Puis ils veulent montrer qu'ils sont capables de faire leur travail.
Ils jouent dur.
Puis là, ils arrivent devant un homme mûr, comme toi, un homme de 50 ans. Puis là, ben ils veulent essayer d'être l'égal de cet homme-là, mais t'as pas à être... T'es policier, tu représentes l'autorité.
Ouais.
T'as juste à faire ton travail, le monsieur va te donner ses papiers. Là.
Totalement, mais c'est vrai que la... Puis je trouve ça triste parce que ça amène le fait qu'il y a encore des questionnements qui se posent par rapport à la place de la femme dans la police, parce qu'effectivement, moi, je me suis fait arrêter quelques fois par des femmes policières qui la jouaient plus dure pour pas grand-chose.
Ton décolleté n'a pas fait la job?
Non, malheureusement, j'ai levé mon chandail, ça n'a rien changé. Non, mais le pire, c'est que je considère être une très bonne personne à arrêter. Là. Moi, je sais quand j'ai fait de quoi de mal, fait que je suis comme, regarde, t'as raison. Mais c'est comme si, effectivement, avant même que l'intervention commence, il y a un besoin d'être pris au sérieux, oui. Puis je trouve ça malheureux parce que je ne pense pas qu'elles sont moins prises au sérieux, mais tu vois que ça reste dans cette mentalité-là.
Oui, puis c'est dommage parce que à l'occasion, et je ne généralise pas, je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui ont eu affaire avec des femmes policières, puis souvent, moi, ce qu'on me dit, c'est « mon Dieu qu'elle était baveuse. Elle était donc bien baveuse avec moi. Elle était arrogante, puis tout. Nous autres, on a une loi non écrite. Tu t'es fait intercepter. Tu étais correct. Tu as avoué ta faute. Déjà là, tout de suite, en partant, je vous le dis, tu as une chance sur deux de ne pas avoir de constat. »
Ou d'avoir le plus gros des constats qu'il peut te donner.
C'est ça. Mm-hmm. On a un pouvoir discrétionnaire au niveau des constats. On n'est pas obligé d'en émettre. Mm-hmm. En étant poli, courtois, en admettant ta faute, en niaisant pas la police, tu pars vraiment avec des bonnes chances de ne pas en avoir. Avec une femme ou un jeune policier qui arrive puis qui est un petit peu arrogant, on le voit dans sa face qu'il a 25 ans, le jeune, vous le voyez, là.
Oui, oui.
Vous le jugez pas, mais dans votre tête, vous le savez. Tout va bien, vous admettez votre erreur, vous vous excusez, vous donnez vos constats. Là, la loi non écrite, c'est ou tu dis pas un mot, tu émets le constat au contrevenant, au conducteur, en lui disant que tu as 30 jours pour payer, ou encore tu lui émets pas, mais là, à ce moment-là, tu peux te permettre de faire une petite morale du genre, tu sais, il y a eu plusieurs accidents ici, il y a eu des décès, nanana, s'il te plaît, ne recommence pas. L'erreur que ces jeunes policiers-là font, et des fois les jeunes femmes, parce qu'ils veulent démontrer qu'ils sont donc bonnes, c'est qu'ils vont faire les deux. Ils vont émettre un constat. Déjà là, le conducteur n'est pas content. Il vient d'avoir un ticket de 200$. Puis en plus de ça, ils vont lui donner une belle petite morale à 10 cents comme bonus. T'sais, ça, c'est à proscrire.
Souhaite-moi juste bonne soirée.
C'est ça. À ce moment-là, coupe ce cours. Puis souvent, dans des interventions, exemple, en violence conjugale, puis encore une fois, mes amis, les auditeurs, tout le monde en parle, la situation va super bien. Tu jases avec l'homme, il est très collaborateur, etc. La femme part en ambulance. Et là, tu viens pour compléter ton intervention, la petite phrase de trop que le policier ou la policière va dire, rien que pour titiller, pour écœurer l'autre.
La
faire en sorte que ça dégénère.
La foire pointe. Ouais.
La foire pointe.
J'avais pogné un policier, peut-être une cinquantaine d'années, policier du service de police de la Ville de Québec. Puis il m'arrête. Puis là, je rentre dans le stationnement parce que c'était le stationnement où j'allais. Puis il me dit bonjour, M. Marceau. Ah, bonjour. Là, je dis ah, c'est un auditeur. Fait que c'est correct, ça va bien. Il dit bonne fête. Ah, je dis merci. C'était le lendemain de ma fête. J'avais pas payé mon permis de conduire.
Oh!
Mais moi, j'étais persuadé qu'il me souhaitait bonne fête.
Oh non, non,
là,
non.
Je disais, avez-vous vos papiers? Je dis, ben oui, j'ai bon. Ça. Là, je lui donne mon permis. Il dit, votre permis de conduire? Il dit, c'était hier, c'était votre fête. Je dis, oui, ah, OK, oui, c'est vrai. Il dit, l'avez-vous payé? Fait que là, je dis, non, 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 je ne l'ai pas encore payé, mais visiblement, il faudrait que je le paye. Il dit, oui. Donc, il dit, vous allez laisser votre véhicule ici, vous allez payer votre permis de conduire, vous allez revenir chercher votre véhicule. Écoute, il aurait pu me donner un ticket de quoi? 600$?
Il aurait pu remorquer ton véhicule.
Je pense
véhicule.
Qu'aujourd'hui, ils peuvent remorquer ton véhicule en plus. Mais juste le fait que j'ai été friendly avec...
Ça a tout changé.
Ouais. Moi, je pensais que c'était un auditeur, mais pas pantoute. C'est juste qu'il avait vu que ma date de fête, c'était la veille puis que j'avais pas payé mon permis de conduire. Fait qu'il m'a intercepté. Puis il était très cool, là, parce qu'il aurait pu me donner le 600$ de ticket à l'époque. Là.
Non, non, mais le pire, c'est que ces mauvais comportements-là, souvent, vont forger une mauvaise perception que les citoyens ont de la police.
Ouais.
Puis l'inverse est aussi vrai, là. Mais je sais pas, je me suis jamais essayé d'être baveuse avec un policier.
Ouais. Danny, je vais te poser une question. Ça, c'est dans mon petit bagage de préjugés. Il est où ici? Mon petit bagage de préjugés était payé dans mon. C'est mon petit bagage de préjugés. Voilà, ici. Y a-tu des gens qui s'en vont dans la police pour l'apparence? T'as-tu déjà vu ça dans ton métier? Ils t'offrent-tu longtemps, ces gens-là, quand
c'est-à-dire
ils s'en vont dans la police?
Besoin de pouvoir, mettons?
Ouais. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est avoir un uniforme. Ce que je veux, c'est avoir une arme.
OK, oui. Ben oui. Malheureusement, oui.
C'est pire.
Mais ils t'offrent pas longtemps.
Ben, ils vont toffer, mais ils vont se faire rassir.
Ah oui?
Soit par d'autres collègues policiers ou, tranquillement, pas vite, la réalité va leur revenir d'en face de par des interventions qu'ils vont faire. Mais les kakis, là, comme on peut dire...
La police de Sainte-Thérèse de Blainville est la pire au Québec.
Ah oui?
Frère de coquiness. Oh, mon doux Seigneur, il était réputé pour ça quand j'étais plus jeune, là.
OK.
Ouais.
Autre question. Est-ce que...
sais, quand il y a des interventions policières qui virent mal, tu sais, un individu en crise, puis l'individu, il a un couteau. Et là, les policiers voient leur vie menacée ou encore la vie de quelqu'un d'autre, décident de tirer dans le centre masse, c'est-à-dire directement au plexus solaire. Là. Il y a toujours des gens qui vont écrire sur les réseaux sociaux ou qui vont nous appeler à la radio pour dire « Pourquoi il n'aura pas tiré dans un bras, dans une jambe? Pourquoi il n'a pas éteindu sa cigarette en tirant avec son gun, comme on voit dans les films? » Peux-tu me dire pourquoi vous ne tirez pas dans les jambes?
Premièrement, on est formé, oui, c'est vrai ce que tu dis, pour tirer dans le centre masse. Donc, au niveau de l'abdomen.
Parce que c'est l'endroit où, quand la personne court, si tu tires dans le milieu, tu as plus de chances de le pogner.
C'est ça. Puis c'est pour neutraliser la menace. Pourquoi on ne tire pas d'une jambe ou sur une épaule, tout ça? Probablement que ces personnes-là qui se posent ces questions-là n'ont jamais tiré. Nous, on tire une fois par année, comme on avait dit précédemment, sur une cible, puis on va jusqu'à 20 mètres. Puis on a la misère à tirer dans le centre masse. Pas parce qu'on est des mauvais tireurs ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'à un moment donné, on ne fait pas du tir miré. On fait du tir instinctif. Parce que dans la vraie vie, on ne prendra pas le temps de prendre notre arme, de dégainer, à regarder les deux mires, pointer l'individu. Deuxièmement, l'individu est en mouvement. Donc, essaie de viser une jambe qui est, soit dit en passant, pas très gros. Quand l'individu court vers toi, il y a des chances, 9 chances sur 10, qu'on l'échappe, qu'on tire à côté. Et on l'a dit, un individu de à 9 mètres de toi avec un couteau, tu ne peux pas manquer ton coup. Si tu tires une fois, tu as le temps de tirer une balle. Et si tu le manques, tu as le couteau au cœur. Donc, moi, je ne connais pas un policier qui ne veut pas rentrer chez lui le soir. Et à ce moment-là, quand on se fait attaquer, bien, c'est pour neutraliser. Et on tire dans le centre masse.
Mais êtes-vous tanné de devoir constamment l'expliquer quand il y a des opérations qui se terminent par la mort, par la mort d'un homme qui était en crise? Êtes-vous tanné de dire « Non, mais attends un peu, on ne peut pas tirer dans les jambes, on ne peut pas y tirer sur une oreille pour y faire peur? » On dirait que c'est constamment à répéter.
C'est certain. Puis souvent, quand on regarde les journaux, on voit toujours des titres qui nous font mal, genre « Un policier a tué, a abattu un suspect », comme si on était des meurtriers. C'est pas ça, là. Dans le fond, on a intervenu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vies en danger. Il y avait notre vie en danger. Il y avait possiblement la vie d'autres personnes en danger. Donc, pour répondre à ta question, ça fait partie de la vie de toujours devoir expliquer ça. Et pas rien qu'aux citoyens, mais à la cour aussi.
Mais je pense que c'est correct. Mais dans le sens que je pense que c'est normal que les citoyens se posent des questions. T'imagines, c'est ton proche. C'est sûr que la question devient...
Mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi les gens prennent le bord du gars qui a un couteau dans les mains, qui veut s'attaquer à des gens qui sont non armés ou à des gens qui sont armés. Puis les gens, ben ils se font tirer dessus. Ils ont un gars, ils ont un couteau.
Ouais,
là,
je pense pas que c'est une question de faute. Personnellement, moi, les cas qui me rendent les plus tristes, là, c'est les gros cas de santé mentale lourds. Là.
Mais ils ont quand même un couteau dans les mains.
100 %. Hey, je te signerai jamais là-dessus.
Estime-moi pas!
C'est juste que c'est ce que je préfère faire. C'est juste que c'est triste parce que je me dis, ce monde-là aurait pu avoir droit à une genre de chance ou à une aide ou peut-être qu'ils n'ont pas été. T'sais. C'est juste que c'est triste comme situation. Fait que tu analyses puis tu te poses des questions comme citoyen. Je pense que c'est sain, en fait.
Mais ils prennent toujours le bord du gars qui a le couteau. Moi, je prendrais le centre. Puis je dirais, hey, on va attendre les résultats de l'enquête, savoir comment ça s'est passé. T'sais. Si les policiers, ils sont allés à Nicolette dans le but de tuer quelqu'un, tu sais.
Il n'y a personne qui veut ça.
Il n'y a personne qui veut ça.
Avant d'arriver à l'arme létale, l'arme de service, puis de devoir tirer sur un individu, il y a des étapes au niveau d'utilisation de la force qui ont été suivies. Il y a le contact verbal, il y a le contact physique, il y a possiblement les armes intermédiaires, le poivre de Cayenne, la matraque, le bâton rétractable, le taser gun. On a un paquet d'outils. Puis quand on est rendu à l'arme de service, c'est parce qu'on n'a plus le choix.
La vie de quelqu'un est en danger.
Et voilà. Mais il n'y a personne, effectivement, vous le dites bien, il n'y a pas un policier que je connais qui veut servir de son arme de service, encore moins
pourquoi,
avoir un mort en conscience.
Pourquoi c'est mieux qu'un individu soit contrôlé et arrêté par 4 policiers versus un policier contre un individu?
Je vais te répondre... Bonne ta question, mais je vais te répondre franchement. La police, elle ne peut pas finir deuxième. Je veux dire...
J'ai vu les deux, là.
Ouais.
Puis je préférerais être arrêté par 4 policiers que
mais
par
c'est pour ta
un
protection.
Policier. Parce que le policier, il ne veut pas arriver deuxième.
s'il ne veut pas se faire prendre son arme. Fait qu'il va tout faire pour s'en sortir, puis ça se peut que ta face écope, là.
Ouais. Je m'étais déjà fait raconter que c'était pour la propre sécurité de l'individu. Ça se peut-tu? Oui. Là, tu dis quatre, mais on m'avait même déjà parlé de cinq.
Ah, ça peut être
les
cinq.
Quatre membres, la tête.
Ben, ça dépend comment que l'individu est, dans quelle situation de crise qu'il est, mais quatre individus, moi, oui, on est formé à Nicolette pour ça. Pourquoi? Ben, un individu sur chaque membre. Nous, ce qu'on contrôle, c'est les poignets. À partir du moment où ce que on voit les mains des individus, on est en sécurité parce qu'il n'y a rien d'un main. Donc, chaque policier va prendre un bras. Et puis, si l'individu continue à résister, bien, les deux autres policiers vont prendre deux pieds. Et après ça, bien, il va toucher le sol. On va le basculer le plus intelligemment possible. Mais, tu sais, on voit ça souvent à la télévision puis sur YouTube, peu importe. C'est pas chic, une arrestation. C'est jamais beau, une arrestation, quelqu'un qui résiste. Mais à un moment donné, quand on est rendu là, on n'a pas le choix. Mais c'est pas une partie du travail que les policiers adorent faire.
Non, mais c'est parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils voyaient ça comme si c'était dans un ring. Ah, mais c'est un contre un. Non. Ce ne sera pas à l'avantage de l'individu qui est en crise. C'est du un contre un parce que le policier va tout faire pour procéder à l'arrestation de l'individu. Mais s'il y a quatre policiers, ils vont être capables d'arriver rapidement. Quatre policiers sont pas mal plus forts que l'individu. Ils vont immobiliser les membres. Ils vont procéder à son arrestation. Les menottes sont mises. Merci, bonsoir, ils sont partis.
C'est mieux pour tout le monde.
Mais un contre un, ça va laisser tout le temps des cicatrices. Puis quand on voit ça à la télé, puis c'est en diffusé sur les réseaux sociaux. Là, on voit quatre policiers qui mettent à terre un individu qui est en crise. On dit tout le temps « Ouais, mais c'est quatre contre un. » Mais Chris, c'est la vie, c'est pas Mike Tyson contre Jake Paul. Là. C'est pas un combat de boxe. Là. Je veux dire, les policiers disent pas « Hey, moi, je vais pouvoir faire un combat de boxe à chaque jour. »
Les policiers sont tellement jugés facilement. Ben oui. Tu sais, ce qui se promène, ces plateformes, ces réseaux sociaux, c'est des bouts de vidéos ici et là. Ouais. C'est facile de taper sa tête d'un policier.
Puis il faut donner l'information, puis c'est la raison pour laquelle on a le plaisir d'avoir un ex-enquêteur au crime majeur, Danny Morissette, qui vient nous voir à chaque deux semaines pour nous raconter des histoires policières. C'est toujours un plaisir, Danny, de te recevoir.
Vraiment.
Bon, on essaie de vulgariser le plus possible le métier policier.
Tes anciens collègues, te trouves-tu bon ou bien je chiale après toi? Là?
C'est une très bonne question.
Tu ne l'aurais pas posé?
Non, j'ose pas parce que, ben, vous le savez, quand j'étais actif, je pouvais pas passer à la radio.
Oui.
Puis, tu me poses la question à brûle pour point. C'est certain que quand on est formé comme policier, on nous dit toujours, les médias, non, tu ne leur dis rien. Tu réfères ça à Anne-Mathieu, tu réfères ça aux communications. Toi, tu n'es pas autorisé à leur parler.
Pourquoi?
Parce que, un, on n'a pas la formation. Puis deux, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas mentionner. Et les communications, eux, connaissent, ils ont les barèmes pour, et ils savent quoi répondre. Et ils ont aussi le contact avec les médias. Donc, un policier, moi, c'est une scène de crime. Le journaliste veut me parler, je ne peux pas lui dire « OK, c'est beau, on va te compter ce qui s'est passé, tout ça. » Je vais toujours les référer. Maintenant, un policier retraité qui passe à la radio, encore aujourd'hui, en 2024, c'est un imposteur. Hey, moi, je le sais, puis je les comprends, ces individus-là, parce que la première fois que j'ai vu Roger Ferland ou Jean-François Brochu passer à la télé, je me suis dit « Ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont-tu parler de nos techniques d'enquête? Ils vont-tu parler de dossiers en cours? Ils vont-tu dévoiler des choses que les citoyens ne devraient pas savoir? » Puis voyez-vous, aujourd'hui, c'est moi qui est en train de discuter de ces choses-là avec vous.
Puis pourquoi tu as accepté?
Bien, on l'a dit tantôt, moi, je veux montrer aux gens à quel point le métier de policier, c'est un des plus beaux métiers du monde, malgré le fait qu'actuellement, ce n'est pas un sujet qui est populaire. Les policiers n'ont pas l'appréciation qu'ils devraient avoir. Puis, je veux également vulgariser le métier, parce qu'il devient de plus en plus complexe. Mais si, de mon côté, je suis capable de vous démontrer à quel point, on jase, là, c'est l'open mic, on jase de n'importe quoi, c'est pas si compliqué que ça. Puis, on est surtout des êtres humains. C'est juste qu'on a un uniforme. Mais regarde, tant mieux. Puis si les citoyens apprennent, les auditeurs apprennent à connaître le métier de policier, puis à arrêter peut-être d'avoir des préjugés, bien, ça sera mission accomplie de mon côté.
Ben oui, puis tu le fais très bien. Moi, j'ai plein de commentaires qui rentrent par texto à quel point les gens t'apprécient. Les gens apprennent à te connaître sur les ondes de boulevard. Là, tu reviens en deux semaines, fait qu'ils disent « Ah, c'est Danny aujourd'hui! »
Ah ben, mon Dieu, mais ça vaut toute l'heure du monde
pour
moi.
Tu fais partie de la gang, mon ami.
Ben oui, c'est toujours un plaisir.
Merci à vous deux.
C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous autres. Puis merci à ta blonde de nous prêter son Danny.
Allez, écoute, t'as apprécié.
Allez, 11h16, on s'arrête.
Ce segment d'émission présente